Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est votre émission Antiquissimo et dans cette émission du mois de janvier, nous allons gravir la 8e colline de Rome. En fait, je vais recevoir et je reçois à l'instant Ugo Bellagamba dont le nom sonne formidablement bien et on va le saluer tout de suite, Ugo Bellagamba.
Bonjour, bonjour à tout le monde.
Alors, Ugo ne se trouve pas très loin de nous puisque c'est un Niçois et cette émission est le prolongement d'une autre que nous avions consacrée à Sémélénoum, c'est-à-dire Nice, même si le nom de Nice correspond à la ville grecque de Nicaïa, tandis que nous, nous allons sur les hauteurs de Nice, dans ce que nous appelons aujourd'hui la colline Simiez et qui s'appelait Sémélénoum. Alors, Ugo, vous êtes, si je regarde bien votre cursus, vous êtes écrivain, on va en reparler bien sûr, mais vous êtes professeur et vous êtes professeur à l'Université de Nice, mais pas du tout en latin, pas du tout en histoire du droit, n'est-ce pas ?
C'est tout à fait ça, Martine, oui.
Alors,
l'histoire du droit, voilà.
Alors,
des idées politiques.
C'est pas très loin du latin, en fait, hein, parce que les latins, on le sait, sont des juristes accomplis. Et le droit, c'est leur petit bébé, même si aujourd'hui, il évolue pas mal. Donc, vous êtes à raconter cette histoire. Et quand vous racontez, quand vous analysez cette histoire du droit, vous consacrez du temps à l'Antiquité, justement ?
Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, l'Antiquité joue un rôle important. En particulier la période romaine, où le droit romain, ben, comme vous l'avez dit, hein, est l'une des sources fondamentales de notre culture juridique aujourd'hui. On a encore des adages en latin, connus pour les juristes, évidemment. Et donc, l'Antiquité, elle joue un rôle important, effectivement. Effectivement, je dirais que c'est un gros tiers de l'ensemble de la culture des juristes d'aujourd'hui. Et j'enseigne cette histoire du droit en première année, traditionnellement, aux étudiants qui découvrent les études juridiques. Et cette histoire du droit, elle va des tout débuts de l'Antiquité, orientale, l'Égypte des pharaons, et on va jusqu'à la Révolution française en général.
Donc, on n'aborde pas encore le Code Napoléon, l'histoire du Code Napoléon.
Alors, si dans certains cours, le Code Napoléon est abordé, de même que l'histoire des constitutions, y compris celle de la Ve République, aujourd'hui en question.
Oui.
Mais la matière fondamentale au départ, elle va jusqu'à la Révolution française. Voilà. Après, il y a beaucoup d'autres matières que j'enseigne aussi, que j'ai la chance de m'enseigner également aux côtés de mes collègues, notamment l'histoire de la justice, l'histoire des idées politiques. Et ces matières-là, elles vont jusqu'à aujourd'hui pratiquement. On pourrait dire, allez, pour rester dans le cadre historique, jusqu'à la moitié du XXe siècle.
Oui, il y a de la matière, comme vous dites, et vous devez avoir beaucoup, beaucoup de travail. Et ça fait un petit moment que vous enseignez à l'Université de Nice, je crois. Hein.
Oui, je suis à l'Université de Nice depuis plus d'une vingtaine d'années. Ça fait même 25 ans en tout, si je compte les années où j'étais jeune chargé de travaux dirigés. Voilà, et puis je m'occupe en particulier aujourd'hui de la pédagogie et des modalités d'enseignement auprès de mes collègues et auprès des étudiants. Avec beaucoup de joie.
Donc ça occupe une grande partie de votre temps et une autre grande partie est consacrée, je crois aussi depuis pas mal de temps, à l'écriture. Vous avez publié, on ne va pas donner toutes les dates et tous les ouvrages puisqu'on va se focaliser sur le livre qui nous intéresse aujourd'hui, mais quand même, vous avez publié énormément de nouvelles dont certaines sont assez longues et réunies en recueil. Vous avez reçu d'ailleurs des prix pour tous ces écrits que vous avez accomplis, qui ne touchent pas toujours l'Antiquité, mais quelque chose qui vous passionne, mais qui n'est pas si loin que ça de la réflexion sur l'Antiquité, l'Uchronie.
Mm-hmm.
Et vous intéressez au Moyen-Âge. Et donc, tout ça vous prend, j'imagine, énormément de temps.
Oui, alors c'est vrai que mener les deux de front, C'est difficile, plus évidemment une vie de famille qui est importante aussi, qui compte beaucoup à mes yeux. Alors en général, Martine, voilà comment ça se passe. J'accumule beaucoup d'idées, beaucoup de connaissances, beaucoup de possibilités tout au long de l'année universitaire. Je peux écrire des textes courts pendant l'année, mais c'est souvent pendant les périodes de vacances, et notamment après la fin des cours et avant le début de l'année suivante, hein, que je me consacre à l'écriture de romans ou de textes un peu plus développés qu'une simple nouvelle.
Oui, cela dit, une nouvelle, c'est pas si simple que cela à écrire, hein.
Absolument, c'est très difficile même
Oui.
parce que la forme courte est très
Oui,
exigeante.
absolument.
Ouais.
Alors,
Et
votre dernier livre, c'est Le Monde de Julia, en
mmh.
2023, je crois. Et nous allons
C'est ça.
revenir en arrière, puisque nous allons parler de la 8e colline de Rome. Mais il me semble que je vous ai interrompu. Vous n'aviez pas tout à fait terminé de raconter comment vous arriviez à jongler avec vos deux activités aussi passionnantes l'une que l'autre.
Non, vous êtes adorable. Non, je disais simplement que l'Uchronie que vous aviez citée, ça me faisait très plaisir, était une autre façon de jouer avec l'histoire. On n'est pas très loin du roman historique, même si on raconte des histoires parallèles, des histoires différentes, des histoires très finalement purement spéculatives. Mais ce jeu sur l'histoire me plaît énormément. Et c'est vrai que même si c'est pas toujours avec l'Antiquité, c'est souvent dans une période historique assez lointaine, comme par exemple l'Uchronie que j'ai écrite sur la première croisade, mais inspirée d'un opéra qui s'appelle Tancrède.
Tancrède, oui, voilà.
Tout à fait.
Alors là, donc, je remonte à quelle époque avec la 8e colline de Rome, dont on va parler bien sûr du titre, de votre lien avec l'Antiquité peut-être auparavant, mais justement, moi, je trouve que la 8e colline, pardon, pas colonne, de Rome, ça fait un petit peu uchronie aussi, d'une certaine manière.
Eh bien, vous avez raison. Vous avez raison parce que on n'est pas très loin de l'Uchronie, dans ce qu'on pourrait appeler un peu l'histoire non racontée, non connue, l'histoire inconnue, puisque dans ce roman, on est au 3e siècle de notre ère, sous l'Empire, et j'y raconte l'histoire d'une impératrice, Cornélie Salonine, qui a été l'épouse de l'empereur Galien et qui a disparu. Après la chute de l'empereur, après son assassinat, elle a disparu de l'histoire et j'imagine que cette impératrice, dans sa fuite probablement, dans l'approche très romantique de l'histoire, je me suis beaucoup nourri des romans et des textes historiques du 19e siècle, hein, donc il y a une forme de romantisme au sens premier du terme,
Oui.
eh bien, elle se serait réfugiée à Kéménélum, à Séménélum, c'est-à-dire cette ancienne capitale de la province romaine des Alpes Maritimae.
Oui.
Et elle y aurait eu des histoires, des aventures. Et c'est ça que je décris. Donc effectivement, Martine, hein, vous avez parfaitement raison. Le cadre historique n'est pas modifié. Les grands événements de l'histoire principale ne sont pas modifiés. Mais les événements autour de ce personnage en particulier, eux, sont inventés et pourraient être considérés comme une uchronie personnelle de Cornélie Salonine.
Exactement. Et d'autant que ben, vous rajoutez à ces 7 collines de Rome et le titre trouve son explication ainsi, hein, quand à la fin du livre, vous indiquez effectivement que vous avez créé quelque part cette 8e colonne en hommage aux 7 colonnes de Rome.
Oui, alors en fait, vous avez tout à fait le doigt sur le titre, parce que quand on écrit un roman avec un éditeur, en l'occurrence avec Frédéric Boyer, et puis en partenariat avec les archéologues, on y viendra tout à l'heure, on cherche des titres. Alors pendant longtemps, ce titre de travail a été La dernière des Augustes. Et puis moi, ça ne me satisfaisait pas complètement. Et je voulais donner un petit côté, justement, uchronie,
Oui.
science-fiction. Et alors, la 8e colline, c'était provocateur, puisqu'on sait tous que tous les passionnés d'antiquité qui nous écoutent, hein, savent que Rome a été fondée, au centre de 7 collines. Donc, la 8e n'existe pas, bien sûr. Et en même temps, en tant
Oui.
que touriste, hein, je voulais montrer que les personnages historiques, comme les empereurs et les impératrices, Vous savez, ils ont leur vie personnelle, mais ils incarnent aussi les institutions, les autorités. Et d'une certaine façon, on peut imaginer que Cornélie, c'était une colline institutionnelle, une colline presque allégorique de Rome. Et voilà pourquoi le titre qui a été accepté par Frédéric Boyer, avec à ma plus grande joie, s'appelle la huitième colline de Rome, c'est-à-dire celle invisible, mais qui ne finira jamais.
Exactement. Et je trouve que c'est vraiment un très beau titre parce que il traîne derrière lui tout ce que vous venez de dire et il montre bien que l'écriture, c'est la croisée de tous ces chemins, l'histoire, l'archéologie dont on va parler bien sûr, et puis tous les creux qu'on remplit en inventant, en imaginant.
Absolument, oui. La science-fiction, le roman historique... On se scie de commun qu'on est toujours à la croisée des faits connus et vérifiés, et puis de la spéculation pure, et je dirais presque d'une liberté exagérée parfois, que les auteurs ont le droit et même le devoir d'explorer. Et donc, ce roman l'incarne bien, effectivement.
Et en même temps, quand on réfléchit au terme de science-fiction, eh bien, nous sommes bien dans une fiction qui a à voir avec la science archéologique, hein, puisque ce livre en est complètement nourri. Alors, je retourne avant qu'on... elle sera, bien sûr, je le précise tout de suite, mais c'est tellement évident que ça serait peut-être inutile. On ne va surtout pas raconter le livre, hein, parce qu'il faut le lire. Mais d'autant que même s'il date de quelques années, on le trouve encore tout à fait facilement. Donc, oui. On va essayer de définir... votre rapport avec l'Antiquité, bon, on a déjà compris que étudier le droit, forcément, c'est être en rapport avec les Antiquités, l'Antiquité ou les Antiquités. Et puis, tous ces grands auteurs, vous le dites à la page 178 pour les remerciements, que vous rendez hommage à tous ces grands auteurs qui vous ont montré très tôt le chemin des collines de Rome. Alors, quel est ce rapport que vous entretenez peut-être depuis longtemps, peut-être récemment, avec l'Antiquité et avec les textes ?
Alors merci pour cette question. Je ne suis pas venu à l'Antiquité par le droit, mais l'inverse. Je suis venu au droit par l'Antiquité. Dès tout petit, j'étais d'abord passionné par les mythes et les légendes, notamment de l'Antiquité gréco-latine. Et je me rappelle que l'un des tout premiers livres que l'on m'a offert, c'était un livre de légendes de la Grèce et de Rome, enfin du bassin méditerranéen au sens large. Parce qu'il y a aussi évidemment tout l'autre côté de la Méditerranée qui joue un rôle très important aussi.
Bien sûr.
J'ai toujours été passionné aussi par les civilisations disparues, par les cités qui n'existent plus. Et donc, dans mes lectures, même adolescent et même en science-fiction, je lisais notamment les auteurs qui me parlaient des cités comme Thèbes en Égypte, comme Athènes, comme Sparte, comme Rome évidemment, comme Ravenne et autres capitales de l'Empire romain. Et c'est par cet amour de la cité antique, un peu plus vieux, quand j'étais un peu plus adulte, j'ai lu La cité antique de Numa Denis Fussel de Coulanges, qui m'avait marqué à tel point que j'en parle encore aujourd'hui, alors même que l'analyse est obsolète aujourd'hui, mais j'en parle encore beaucoup à mes étudiants, voilà. Et donc, cette fascination, cette passion pour la cité antique a déterminé tout mon parcours. Et bien sûr, comme j'avais des origines italiennes et que j'avais la chance d'avoir des grands-parents qui m'accueillaient souvent, qui accueillaient souvent leur premier petit-fils à Rome, avec un grand-père italien notamment qui était passionné d'histoire et notamment qui était un féru d'Alexandre le Grand. J'ai beaucoup eu la chance d'être à Rome petit, de visiter les parties historiques de la ville, et donc l'Antiquité pèse énormément. À dire vrai, même lorsque j'écris de la science-fiction futuriste, bien souvent les structures des sociétés futures que j'imagine, dans leur terminologie, dans les institutions, dans leur façon de s'organiser, sont inspirés des grandes cités antiques. Donc l'Antiquité, pour moi, elle est vraiment
elle est première, voilà, c'est voilà. Le fondement.
Elle vient en premier.
Très bien, écoutez, on sait déjà beaucoup de choses, mais on va en apprendre davantage dans la deuxième partie de l'émission, après une petite pause musicale, comme on dit. À tout de suite, Hugo.
À tout de suite.
Alors, c'est toujours Antiquissimo sur Radio Alliance Plus et c'est toujours cette huitième colline de Rome que nous voulons gravir avec Ugo Bellagamba en direct de Nizza la Bella. Alors, ce projet de livre, ce livre dont nous parlons aujourd'hui, comment est-il né? Comment est-il fabriqué? Parce qu'il est très original. Et un petit mot peut-être avant tout sur les mémoires millénaires, c'est-à-dire la maison d'édition.
Alors d'abord, effectivement, la maison d'édition, elle est déterminante, comme dans beaucoup de projets littéraires. Je pense que vous recevez pas mal d'autrices et d'auteurs.
Oui.
Il n'existe pas de livre sans véritable édition et sans véritable projet avec un éditeur. Et donc, quand Mémoire millénaire a été créé par Frédéric Boyer,
oui,
il a commencé par son premier projet, c'était un livre sur les sites archéologiques de la région PACA. Et pour ce faire, ce livre qui s'appelait Mémoire millénaire, qui est le nom éponyme littéralement de la maison d'édition, il m'avait demandé d'écrire une nouvelle préhistorique qui s'appelait La Vénus des Roches Rouges sur le site préhistorique des grottes Grimaldi entre Monaco et Nice. Voilà. Et donc notre collaboration a commencé comme ça. Et quand sa maison d'édition s'est développée, il a développé une collection qui visait à explorer Nice et la région de Nice au fil des âges, avec une structure qui était toujours la même, un dossier archéologique assez dense, assez détaillé, et un roman. Et lorsqu'il m'a demandé si j'étais intéressé, évidemment, je lui ai dit tout de suite oui. Et j'ai voulu parler de cette période de Nice Kéménélum, donc de Kéménélum, de cette capitale de la province romaine des Alpes-Maritimes. Et très rapidement, en cherchant les personnages, en cherchant dans les fonds du musée d'archéologie dessiné, nous avons trouvé ce personnage de Cornelis Salonine. Et moi, tout de suite, il m'a semblé terriblement romantique, furieusement tragique, et je me suis dit je vais me saisir de ce personnage et pour faire vivre Kéménélum à travers ses yeux, donc vous savez sur le modèle classique de la voyageuse en l'occurrence qui fuit évidemment des dangers et qui vient découvrir la ville
qui cherche
d'ailleurs dans cette ville un havre de paix.
Donc c'est une femme et ce n'est bien sûr pas anodin, c'est une femme, une impératrice, donc une femme politique, une femme en fuite et en danger même, et une femme déchue qui vient incognito à Kéménélum.
C'est exactement ça, vous l'avez très bien résumé. Et à travers les yeux de cette femme en fuite, mais très forte, avec une expérience politique très importante, pour moi, il y avait un petit côté, vous savez, Christine de Pizan, si vous connaissez ce personnage.
Oui.
Voilà. Il y avait ce côté d'une intellectuelle en danger. Et à travers son regard lucide et très cultivé, on découvre une ville complexe. On la saisit dans une période qui est la fin de sa gloire et le début de sa crise, puisque le IIIe siècle, sur Antiquissimo, vous devez en parler souvent, c'est le début du déclin de l'Empire, d'Occident notamment. Et donc, à travers ses rencontres, à travers les personnages qui vont l'accompagner, mais aussi qu'elle va rencontrer. On va voir vivre cette ville de Kéménélum dans ses contradictions, dans sa richesse culturelle. Et j'ai choisi un certain nombre de personnages qui entourent Cornelis Salonine et qui ont chacun leur point de vue sur là où doit mener la vie, en fait.
Oui, alors on pourrait rappeler aussi, concernant cette femme étonnante, on rappelle qu'elle a existé, qu'elle serait originaire de Bitini, c'est-à-dire la Turquie actuelle, le nord de la Turquie actuelle, ce qui n'est pas non plus anodin et qui doit nous rappeler que quand on dit Rome, Rome est partout.
Absolument. Hein,
Rome, c'est très loin et souvent on l'oublie. Et cette femme dont vous avez imaginé ce parcours à Nice, l'histoire nous dit qu'elle serait venue à Kéménélum. Et la numismatique nous renseigne là-dessus, n'est-ce pas?
Oui, absolument. Alors, on pense qu'elle est venue. Alors, c'est quasiment certain. Je le dis toujours avec beaucoup de prudence. Parce que, si on a le temps tout à l'heure, je reviendrai sur le travail avec les archéologues. Mais effectivement, il y a des inscriptions Il y a même une statue qui a été réalisée en hommage à Cornélie Salonine. D'ailleurs, on a ces mentions-là dans le musée de Et on pense aussi que Cimiez, enfin plutôt Kéménélum, était une ville thermale, on le sait,
Ah
avec au moins
oui.
trois ensembles de thermes importants.
Et d'ailleurs, je vous
Ce
coupe
qui,
deux
pour une
secondes parce
ville.
que c'est passionnant dans votre livre.
Oui.
Quiconque a visité le site se régale parce que on assiste à la construction presque du troisième complexe thermal.
Absolument. En fait, c'était même dans le projet, avec les archéologues, une partie du livre devait se passer dans les thermes. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on aura le temps, donc je vous le dis rapidement, mais il y a eu des dialogues et des débats avec eux fascinants, qui sont un de mes meilleurs souvenirs, où moi j'essayais de trouver la manière dont fonctionnaient les thermes, et eux à chaque fois me disaient: Ah non, c'est pas comme ça, on n'est pas sûr, etc. Et du coup, il fallait que je fasse un choix, évidemment. Et il y a des scènes importantes du livre qui se passent dans les thermes, où vous savez que dans les thermes à cette époque-là, c'était un lieu de sociabilité.
Oui, bien sûr.
Beaucoup plus que
Oui.
d'hygiène à proprement parler. On s'y rendait pour faire des affaires,
Oui.
pour s'y montrer, pour rencontrer des amis, pour peut-être avancer des manigances politiques. C'était un lieu très important.
Un lieu qui pouvait être très chaud aussi. Et dans votre
Oui,
livre,
avec des salles, ouais, tout à fait, avec des salles très chaudes. Même un Laconicum
oui,
qui porte son nom du fait qu'on ne peut même plus parler tellement il fait chaud.
je voudrais pas oublier de dire que dans Simiez, la colline actuelle et la Nice actuelle, il y a justement, non loin de tout cela, une rue, Salonina, non loin des thermes, tout près de l'école primaire qui lui est dédiée. Donc,
Oui, tout à fait.
ce passé, il est fortement vivant. Et on pourrait dire aussi que dans votre livre, vous avez soin de parler de beaucoup de choses, mais de la condition des chrétiens qui doivent se cacher et que l'on retrouve dans votre livre. L'influence en est réelle. Et donc, votre impératrice, elle est. Alors, quand je dis soupçonnée, c'est peut-être pas le mot qu'il faudrait employer. Elle est soupçonnée justement avec son mari qui aurait eu Galien. Des liens avec les chrétiens, peut-être par habileté politique, on ne sait pas. Et il est fortement question de cette christianisation. D'ailleurs, on ne parle
Oui,
pas
c'est
de
très.
chrétiens, on parle des nazaréens.
Oui, tout à fait. En fait, ça m'intéresse beaucoup parce que ce rapport des religions avec la politique, c'est quelque chose qu'on connaît encore aujourd'hui, que toutes les époques connaissent. Il n'y a pas de structure politique sans dimension sacrée et donc sans dimension religieuse. Et il se trouve que à travers Cornélie Salonine, on peut illustrer les tensions entre un christianisme montant, pas encore triomphant, mais qui va le devenir dans le siècle qui suivra, où ces fidèles du Nazaréen sont encore assez peu tolérés, mais le temps des persécutions est fini. Et effectivement, vous l'avez bien souligné, Martine, Galien a été un des premiers empereurs à faire œuvre de tolérance auprès des chrétiens. Et on trouve en même temps dans ce roman la résilience, la
Oui.
résistance des anciens cultes
Oui.
polythéistes, romains, et même parfois des cultes non romains, mais qui ont été agrégés par Rome. Et puis, il y a cette dimension très intéressante aussi, qui mériterait qu'on en parle plus, mais de la revanche du platonisme, du
Oui.
néoplatonisme, de la mémoire de Platon. Et les idées néoplatoniciennes, on le sait que Galien appréciait beaucoup aussi, sont très présentes dans le roman. Et il y a ce dialogue entre le rêve d'une cité idéale à la Platon et puis la montée d'une cité égalitaire, plutôt chrétienne.
Oui, d'ailleurs, il y a un nouveau personnage. On a bien sûr pas le temps maintenant, c'est la toute fin de l'émission. Un personnage justement qui est très philosophe et qui nous fait part de ses réflexions et sa façon de vivre de philosophie particulièrement, puisqu'il a été l'élève d'un grand de la philosophie. Alors, nous
Oui, tout
arrivons
à fait.
au bout du chemin et je ne saurais trop recommander à nos auditeurs de se précipiter sur ce livre, ces 17 chapitres qui sont assez courts, qui sont à la fois faciles à lire, très vivants et en même temps très érudits, et bien sûr de ne pas échapper à toute la partie archéologique qui constitue le début du livre. Je vous dis bravo pour ce livre. J'espère que vous en écrirez d'autres, que j'ai ainsi l'opportunité de vous réinviter dans Antiquissimo, dont vous devinez qu'elle est
J'espère aussi.
monomaniaque. Monomaniaque, donc que l'Antiquité. Alors je vous dis à très bientôt. j'espère.
Merci beaucoup Martine et merci à toute votre équipe également. Au plaisir.
Au revoir.